l'histoire et l'origine de Schneefalsen. Alors, il y a d'abord les trois principes, principales étapes. D'abord, la fondation des bâtiments. Ensuite, l'orphelinat sous l'ordre de la commanderie du Saint-Esprit du XIIe au XVIIIe siècle. Voyez-vous, en 1832, donc nous sommes sous le Philippe. Ça s'appelait Asile d'Aliénés de Schneefalsen. En 1951, donc là nous sommes sous la 4e République, appellation hôpital psychiatrique de Schneefalsen. Et en 1975, ça change. Ça s'appelle désormais Centre hospitalier spécialisé de Brumath. En 1992, on enlève le mot de spécialisé. Ça s'appelle Centre hospitalier de Brumath. Et actuellement, le terme, voyez-vous, de psychiatrie a complètement disparu. Et ça s'appelle l'EPSAN, ce qui signifie établissement public de santé Alsace-Nord. Schneefalsen est très grand. Ça a une superficie de 14 hectares. Et quand je dis un hectare, vous voyez, je sais ce que vous... Tout le monde sait ce que vous aimez, 100 mètres sur 100 mètres. Mais enfin, pour que vous ayez un peu l'idée, ça a la grandeur d'un terrain de foot, n'est-ce pas, André Grassal. Alors, imaginez-vous 14 terrains de foot, tout roule, c'est chaval. Voyez-vous, deux agglomérations ont toujours existé à Brumath dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, et surtout sous les Romains, puisque Brumath, Brocomagus, était la capitale de la basse Alsace. Durant 4 siècles, Brumath était capitale administrative et économique et judiciaire. Strasbourg, Argentoratum, était un petit port, voyez-vous, à l'époque sur le Rhin. D'ailleurs, à l'époque, on se déplaçait sur les cours d'eau. Hein. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, presque toutes les grandes villes, messieurs, dames, sont situées sur des fleuves, d'où l'importance de l'eau. Combien de fois dans les églises, je lis, nul ne rentrera au royaume des cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit, voyez-vous. Pour l'importance de l'eau. Voilà. Donc, je vais donc en venir maintenant aux origines et à l'apogée européenne de l'hôpital de Schneefalsen et surtout, disons, sa destinée comme hébergement pour les orphelins. Dès le bas empire, l'hébergement, le soin des malades et des vieillards incomplet aux œuvres charitables de l'Église. La création d'hôpitaux, d'hospices et d'asiles ne visait pas à soulager une catégorie particulièrement négligée de déshérités, les orphelins. Et durant des siècles, les orphelinats demeurèrent si rares en Occident qu'il fallut la fondation d'un ordre religieux spécial pour que les enfants abandonnés ont fait partie de la préoccupation sociale et charitable de l'Église. En 1198, donc nous sommes à la fin du XIIe siècle, l'un des plus grands papes du Moyen-Âge, Innocent III, fonda à Rome, sur l'initiative de Guy de Montpellier, donc un Français, l'Ordre du Saint-Esprit. Cet ordre avait pour mission de secourir les pèlerins, les malades, mais surtout de recueillir les enfants abandonnés. Dans une société dominée par les guerres publiques et privées en proie au brigandage, où l'insécurité générale favorisait l'égoïsme et la dureté de cœur, sa tâche était de se pencher plus particulièrement sur le sort affligeant des victimes les plus innocentes, à savoir les orphelins, et de créer des orphelinats partout où le besoin s'en faisait sentir. La nécessité de cette mission assura la diffusion des idées du nouvel ordre et de son essaimage très rapide dans toute l'Europe. La création de l'orphelinat de Schneefalsen répondit à ce légitime enthousiasme dont il fut l'une des manifestations les plus anciennes et les plus marquantes. Je vais donc parler de cette période où Stefan Zweig, aujourd'hui exempt, était un orphelinat. Les origines de l'établissement sont très obscures. En fait, dès avant 1216, et je vais revenir à cette époque de 1216 pour des choses extrêmement précises vous concernant, date de sa reprise par l'ordre du Saint-Esprit, il existait un hôpital à Stefansfeld. Des documents y font allusion, mais ne révèlent pas le fondateur de cet hôpital. Alors vint donc une espèce de légende vers le XVIIIe siècle, on attribua la création à Étienne, comte de Werth, qui aurait donné son propre nom, Stefan, à l'établissement, Étienne, Stefansfeld, le champ d'Étienne. Hein, c'est comme ça. C'est là un pur jeu de l'esprit auquel on ne saurait attacher aucune valeur historique. Restez sans doute modeste, l'hôpital fut repris dans des circonstances inconnues par l'ordre du Saint-Esprit quelques années après sa fondation, au tout début du XIIIe siècle. Ce fut la première de ses filiales au nord des Alpes. Le comte Étienne de Werth, lors d'un pèlerinage à Rome en 1203, a été impressionné par cette fondation de l'ordre de la Commanderie du Saint-Esprit et décida d'en fonder une semblable à Stefansfeld dans le but de recueillir les enfants abandonnés. La commanderie de Stefansfeld entre vraiment dans l'histoire à partir de 1216. Cette année-là, le landgrave de Basse-Alsace, Siegfried de Werth, l'a pris sous sa protection et leur fit une donation, monsieur, dame, d'un troupeau de 128 vaches. 128 vaches. Très saines, des chevaux robustes, une porcherie, des prés, des pâturages, ainsi que l'immense forêt qui s'étendait le long de la zone jusqu'au Rhin. Imaginez-vous cette étendue. Le brumat jusqu'au Rhin. Voyez un peu. L'histoire retiendra qu'il a fourni aux religieux le moyen de donner à leurs pensionnaires en bas âge ce dont ils avaient le plus besoin, le lait. Le lait, c'est donc vaches, chevaux, terre, forêt, établissait aussi la fortune matérielle pour subsister. Objectif de la fondation. Recueillir les enfants abandonnés, leur donner une éducation et un travail. L'administration était dirigée par un commandeur ou maître. Le personnel était composé de frères et sœurs de charité et d'autres gens pieux. Quant aux soins que réclamaient les nourrissons, les textes malheureusement sont muets dans la manière dont s'acquittaient les religieux. Cet ordre du Saint-Esprit a connu, pendant le Moyen-Âge, qui, entre parenthèses, n'était pas une période aussi obscure qu'on veut bien le dire. Bien sûr, le Moyen-Âge, pour nous tous, c'est un peu des épidémies, c'est le manque d'hygiène. Mais le Moyen-Âge a eu aussi ses périodes fastes. Je vais y parler tout à l'heure un peu. Un développement, je n'ai pas fait, ça a eu à ce moment-là, un développement et un rayonnement sans égal en Europe. Tout concourait à favoriser la prospérité matérielle et l'influence spirituelle de l'établissement. Emplacement bien choisi. Carrefour de route de la Basse-Alsace, c'est-à-dire Strasbourg-Saverne-Hagen-Ossels, l'orphelinat possédait des domaines offrant les ressources variées, c'est-à-dire les pâturages, les terres de culture, la forêt, le voisinage immédiat de Brumat, centre artisanal et commercial. Quant à ces privilèges, leur multiplication eut bientôt les conséquences d'une exceptionnelle importance. Dès 1234, Rodolphe Ier, commandeur de Stefansfeld, déjà mentionné en 1220, apparaît comme le procurateur général des hôpitaux de tout l'Empire germanique. En 1288, le pape Nicolas IV, vous voyez Nicolas, il avait déjà, on connaît un Nicolas actuellement, il y a aussi des partis qui s'appelaient Nicolas, Nicolas IV, a pris l'établissement sous sa protection. Plus tard, en 1295, une bulle du pape Boniface VIII place l'ensemble des hôpitaux de l'Empire et de la Pologne sous l'autorité de la commanderie de Stefansfeld. Alors imaginez-vous, Stefansfeld était le centre administratif de tous ces hôpitaux et de ces orphelinats. Wimpel, Gmünd, Munich en Bavière, Vienne en Autriche, Stettin près des rivages de la Baltique et Cracovie sur la Vistule, l'autorité de Stefansfeld, messieurs, dames, s'étendait non seulement en direction de l'Est, mais aussi vers l'Ouest et Sud-Ouest dans le Royaume de France, ainsi que le ressort d'un relais complet de filiales établi en 1288. Parmi ces filiales, nous connaissons les hôpitaux de Saint-Jean près de Laon, dans l'Aisne, Présin en Isère, Tartas dans les Landes, Auriol, Bouches-du-Rhône, les Libres-Proseries, pardon, de Barenton dans la Manche, etc., etc. En réalité, plus de 20 établissements en France relevaient de Stefansfeld. Cette commanderie de Stefansfeld est devenue, en moins d'un siècle, une des plus puissantes de la chrétienté. Elle couvrait des territoires s'étendant de l'Atlantique aux frontières de la Russie, comme le montre une carte que nous sommes en possession et que j'ai consultée. L'extrême dispersion des filiales, on peut se demander d'ailleurs, comment, dans la pratique, le commandeur de Stefansfeld pouvait exercer une autorité sérieuse sur toutes ses filiales, s'il voit si éloigné de la maison mère et si distante les unes des autres. Aucun document de nos roses renseigne sur ce point. Cet extraordinaire rayonnement, l'un des plus puissants au sein de la chrétienté, marque l'apogée de l'hôpital. Il était trop large, trop dispersé pour durer et soumise à des perturbations morales et matérielles. Cette institution ne savait pas se réformer, d'où la crise et la décadence. Je vais donc parler maintenant de la crise de cette commanderie.